Dans cet épisode du podcast Genre en Afrique centrale, Raphaël, activiste gay, revient sur les motivations qui le poussent à être défenseur des droits humains, dénonce les violences subies par les minorités sexuelles et de genre, et expose sa vision du féminisme et ses envies de lutte commune. Attention, dans cet épisode, nous abordons des thèmes liés aux violences physiques, psychologiques et sexuelles. Ces propos pourraient déclencher des émotions ou des souvenirs douloureux. Si vous vous sentez mal à l'aise, à tout moment, nous vous encourageons à mettre en pause l'épisode et à chercher du soutien auprès de personnes de confiance ou de professionnels de la santé mentale. Merci de votre écoute et de votre solidarité.
Je suis Raphaël Doigt, je suis actuellement chargé des programmes de l'association Cœur à Conciel. Cœur à Conciel est une organisation qui a fait dans la promotion et la lutte des droits, la lutte pour les droits des minorités sexuelles et de genre à Brazzaville. Cœur à Conciel a des axes qui sont la lutte contre le VIH en milieu communautaire. Cœur à Conciel fait dans le plaidoyer. Cœur à Conciel fait dans la désoccidentalisation. Cœur à Conciel fait également dans le plaidoyer, qui est la sensibilisation de la masse à travers l'art. Cœur à Conciel apparaît dans un contexte où l'environnement des minorités sexuelles et de genre au Congo n'est pas assez soutenu par une organisation qui défend le droit. Cœur à Conciel apporte la plus-value qu'elle arrive par ses propres moyens à conduire une étude qui permet de ressortir déjà une première image de l'environnement social dans lequel les minorités sexuelles et de genre évoluent, principalement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Une étude qui a permis de sortir quelles sont les violences dont souffrent principalement les minorités sexuelles et de genre à Brazzaville. Voilà. Un défenseur des droits humains, pour moi, c'est quelqu'un qui dédie sa vie, qui consacre son temps pour s'assurer à travers plusieurs actions que les droits des personnes marginalisées, des personnes minoritaires, des personnes oubliées par la société sont également respectées. C'est une personne qui s'arrange à ce que la dignité de tout le monde soit respectée. Et c'est une personne qui dédie sa vie à faire en sorte que tout être humain ait un statut d'être humain selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tout homme naît libre et égaux en matière de droits et de liberté. Voilà. J'étais très jeune quand j'ai perdu mon meilleur ami qui s'est fait emprisonner parce qu'il s'était fait prendre en train d'embrasser son petit ami quelque part. C'est un événement qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui et qui m'a donné envie de me battre pour que personne ne puisse jamais passer par là. J'ai décidé de faire des études de droit pour comprendre déjà ce que j'allais faire. Je suis sorti de mes études de droit, je suis entré en tant que père éducateur à Humanity First Cameroun, ici au Cameroun. J'ai continué à apprendre, j'ai continué à m'auto-renforcer en matière de mes connaissances, en matière de mes capacités, en matière de ce que je devais faire, où est-ce que je devais placer mon pied pour apporter ne serait-ce qu'un tout petit changement. J'utilise tous les supports parce que je suis également un blogueur. J'ai une page où je fais essentiellement de l'activisme et j'écris des romans parce que je m'étais rendu compte que nos communautés avaient arrêté de rêver. Donc je me suis donné pour objectif d'écrire des histoires qui ont des happy ends et qui donnent encore un peu d'espoir à une communauté qui a complètement perdu l'espoir. Je suis cet activiste-là qui essaye de toucher à tous les niveaux pour essayer de voir où est-ce que le changement peut venir. Et je suis également, et je me suis également donné pour mission de réellement apporter de l'espoir à la communauté. Et j'aimerais réellement laisser mes traces dans cette vie en tant que grand défenseur africain. Parce que c'est ma vocation en fait. Et c'est ce que j'aime faire au jour le jour. Voilà. Il y a une grande différence entre une personne qui défend l'environnement, une personne qui défend les droits des enfants, et une personne qui défend les minorités sexuelles de genre dans le contexte africain. Parce qu'il faut noter que en Afrique, sur les près de 52 États, nous avons encore près de 35 qui pénalisent. Nous avons encore à peu près deux ou trois qui vont jusqu'à la peine de mort avec l'Ouganda qui vient de s'ajouter dernièrement. C'est un domaine assez sensible. C'est un domaine dangereux. Nous sommes confrontés non seulement au rejet de la part de nos familles, parce que beaucoup d'entre nous qui se dédient à défendre le grand tabou social qui est l'homosexualité ou l'identité de genre ou alors, je sais pas trop, la liberté d'aimer qui on veut, sont représentés dans leur famille comme un échec. Ils sont eu honte pour leur famille, nous sommes rejetés par nos familles, nous sommes rejetés par l'environnement dans lequel nous travaillons, nous sommes exposés à la violence. Certains de mes collègues activistes au Cameroun ont d'ailleurs frôlé la mort et un a également été tué chez lui. Ça, c'était en 2010. Et voilà, nous sommes très fragiles parce que nous sommes d'abord aussi des bénévoles et que nous n'arrivons pas réellement à nous sécuriser avec ce que nous avons comme revenu. Nous sommes obligés de prendre des maisons ou des petits trucs pas du tout sécurisés parce que nous n'avons pas les moyens réellement de payer des maisons bien sécurisées. Nous marchons à pied, nous et tout, et tout, et tout. Donc nous sommes très accessibles. La protection, le danger, c'est quelque chose que nous avons fini par normaliser. C'est un métier que nous faisons et qui est chargé d'émotions et qui parfois attaque notre santé mentale parce que tout ce que nous voyons comme violence, comme rejet, comme abus, comme violation autour de nous peut parfois attaquer notre mental. Mais nous choisissons de rester debout et de normaliser ces choses. Voilà. Les différents types de violences, nous avons d'abord, comme je l'ai dit, le rejet. Le rejet social, c'est une grosse violence. Nous sommes exposés aux violences physiques parce que c'est très souvent qu'on se fait tabasser ou alors qu'on se fait saquer de nos maisons ou alors que nos sièges sont attaqués. Nous sommes très exposés aux arrestations arbitraires. Parce que généralement, quand un bénéficiaire nous appelle et que nous allons, on nous dit « Oh, c'est vous qui défendez ces gens, alors vous aussi rejoignez-les en cellule et tout. » Voilà. Les violences psychologiques aussi, parce que nous passons toute notre vie à recevoir des menaces sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans nos téléphones et autour de nous-mêmes, des personnes qui viennent physiquement nous menacer et en nous disant si on continue ce que nous sommes en train de faire, elles vont en finir avec nous. Donc voilà un peu les types de violences qui sont réellement légion dans notre vie de tous les jours. Voilà. Je pense que pour renforcer la protection, il faudrait tout simplement déjà nous permettre au travail que nous faisons de nous donner la force de nous protéger déjà nous-mêmes. Parce que l'activisme en Afrique, surtout en Afrique centrale, ne nourrit vraiment pas son homme, quoi. Je suis un grand féministe, voilà. Je suis pas un féministe radical parce que je pense pas que les hommes sont les ennemis des femmes. Et je ne pense pas que le féminisme se limite au genre féminin qui ne représente que les femmes. Mais je pense que le féminisme le féminisme s'étend à tout type de femmes. Ouais. Et je suis un peu le genre de féministe qui est réellement pour la liberté de la femme dans l'entièreté du terme. Si elle veut avoir des enfants, si elle ne veut pas avoir des enfants, elle peut décider de ne pas en avoir sans que la société ne voit ça comme un tabou. Elle peut décider de ne pas vouloir se marier. Elle peut décider de vouloir se marier. Je suis réellement le féminisme. Mon type de féminisme, c'est de voir la femme faire des choses pour son bonheur et pas parce que la société lui met une certaine pression et parce que la société veut lui faire croire qu'il y a un certain chemin qu'elle doit obligatoirement suivre. J'adore voir les femmes au pouvoir. J'adore la vice-présidente américaine parce que pour moi, elle représente vraiment une femme de pouvoir. Et en termes de féminisme aussi, je suis très Michelle Obama. Parce que c'est une femme mariée qui a des enfants, mais qui est aussi une femme de pouvoir, qui est une femme intelligente, qui est une femme qui n'a pas un mari égoïste, un mari qui assume que sa vie est à côté pour soutenir sa femme. Voilà, je suis un grand féministe, mais je suis pour le féminisme de la paix qui constitue à trouver des solutions pour un monde meilleur où les hommes et les femmes vivent ensemble et se soutiennent, sans qu'on ne mette la pression et sans que la femme ne soit instrumentalisée. Voilà. À un certain moment, nous avons greffé notre combat sur le droit des femmes, sur le combat que menaient les femmes. Parce que nous nous sommes rendus compte à un certain moment que nous avons facilement pour allier les femmes que les hommes. Et les femmes, peut-être parce qu'elles sont aussi mères et que c'était facile de comprendre, c'était facile pour elles de comprendre notre situation et de nous comprendre en tant qu'êtres humains. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes parce que, comme j'ai parlé, comme je le dis souvent, la masculinité toxique, qui est le fait que certains hommes pensent qu'ils sont des êtres tellement dominants que tout le monde, tout ce qui n'étique pas les boxes sociales en ce qui concerne être un homme doit s'agenouiller devant eux, ne fait pas souffrir que les femmes. Elle fait souffrir la masculinité toxique fait souffrir les enfants, elle fait souffrir les personnes cranjard, elle fait souffrir les hommes cranjard comme les femmes cranjard, les personnes gays comme moi. Déjà, on me dira que je ne suis pas un homme parce que comment est-ce que je peux prétendre être un homme si je couche avec d'autres hommes? Et je pense que le combat des femmes qui est l'égalité des genres a beaucoup de similitudes avec l'égalité des droits que nous défendons en tant que minorité sexuelle et de genre. Je pense que c'est d'ailleurs le combat, c'est d'ailleurs les combattantes avec lesquelles il serait peut-être plus facile pour nous de nous allier pour atteindre nos buts. Parce que la femme a pendant longtemps été marginalisée, été torturée, été réduite à une possession, à une possession masculine, qu'elle peut très vite comprendre et nous donner même des idées sur comment nous en sortir en matière de défense de nos droits, puisque nous sommes aussi une population marginalisée et opprimée, essentiellement par la masculinité toxique. Voilà. Je pense que pour les femmes qui font partie des minorités sexuelles et de genre, parfois c'est peut-être même un peu dur, un peu plus dur. Parce que moi, en tant que gay, j'ai jamais subi un viol correctif ou collectif aussi. J'ai jamais subi ça et j'essaie juste d'imaginer ce que ça peut faire à une personne de se faire violer par trois, quatre hommes parce qu'ils pensent que avoir des rapports sexuels forcés avec elle corrige en quoi que ce soit son orientation sexuelle. Je pense que les femmes des minorités sexuelles sont très très opprimées parce que certaines se retrouvent dans des mariages forcés, certaines se retrouvent en train de faire des trucs qui vont à l'encontre de ce qui pourrait faire leur bonheur juste à cause d'une société qui ne comprend pas ce qu'elles sont. Donc, je pense que leur place, nous en tant que minorité sexuelle, leur place est prépondérante dans la communauté. Nous leur donnons le respect qu'il faut, mais on comprend aussi que notre seul respect ne suffit pas. Il faudrait qu'on en arrive à un niveau où tout le monde les respecte et tout le monde respecte leur style de vie, parce que j'aime pas parler de choix, parce que personne ne choisirait de faire partie des minorités sexuelles déjà dans un contexte comme le nôtre. Mais le style de vie qu'on vit, qu'elles vivent, par exemple, doit être respecté par tout le monde, autant que le nôtre aussi. Voilà.
C'est sur ce message promouvant le respect de chacun et chacune, sans discrimination pour les minorités sexuelles et de genre, que s'achève notre podcast Genre en Afrique centrale. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage et à nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode, Ruby la reptile partagera ses expériences liées à son identité de genre qui se heurte à la stigmatisation, la discrimination, le rejet et les humiliations au Cameroun. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.